Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est toujours un peu impressionnant de se retrouver ici. Ce n'est pas la première fois pour moi, ça l'est pour Delphine de Vigan, je crois. Mais c'est un grand plaisir de vous accueillir ici pour vous entendre lire Maupassant et pour vous entendre parler de Maupassant. Enfin, pour vous entendre lire, justement, la première question, la petite question préliminaire, c'est toujours la même. Est-ce que vous nous entendez au fond de la salle si on ne se sert pas du micro? Est-ce que vous m'entendez à peu près? Voilà. On nous a installé des micros au cas où nous en aurions besoin. Il y a un bouton. C'est ça? Oui, là, il marche. Marilène, c'était le bon bouton. Hein? D'accord, c'est ça. Je l'éteins. Vous préférez avec micro? Je vous laisse quand même le choix Delphine de Vigan, parce qu'effectivement, lire et tenir un micro en même temps, c'est peut-être pas facile.
Je vais essayer.
On va essayer, mais n'hésitez pas à couper le micro tout simplement. Simplement, effectivement. Marilyn, tu nous fais des signes si on devient un peu inaudible. Oui, mais c'est parce que j'ai le micro. Que veux-tu ? Alors, ça a été à plus d'un titre un plaisir pour moi de préparer cette rencontre, parce que ça a été l'occasion pour moi de découvrir un auteur que je ne connaissais absolument pas, Delphine de Vigan, et pour redécouvrir un auteur que je connaissais très mal et uniquement à travers de sinistres souvenirs scolaires, à savoir Guy de Maupassant. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais j'avoue que j'ai été très étonné avant lecture, parce que je ne connaissais pas notre cœur de Maupassant, j'étais très étonné du choix de Delphine de Vigan. On est toujours très étonné quand on part de ses préjugés, forcément. Alors là, j'en avais un double, un préjugé sur Maupassant et un préjugé sur notre cœur que je ne connaissais même pas. Mais tiens, pourquoi quelqu'un s'intéresserait-il à Maupassant? Aurait-il un coup de cœur pour Maupassant? Je comprends mieux après l'avoir lu, on en reparlera. Mais je vous invite d'ores et déjà à lire également ce roman, qui est vraiment extraordinaire, tout à fait inattendu, et que vous pouvez donc découvrir dans la collection de notre cher sponsor, Garnier Flammarion, pour ne pas le nommer, qui s'obstine et s'échine à publier des grands classiques, y compris des textes peu connus, comme celui-ci, des textes peu connus de grands auteurs, à des prix, là pour le coup, qui vraiment défient toute concurrence. C'est-à-dire que dans cette collection, vous pouvez avoir Notre cœur avec une introduction, une bibliographie, un extraordinaire dossier, notamment des textes d'Anatole France sur Notre cœur de Maupassant qui sont brillants. Une édition splendide, universitaire, qui offre toute garantie, sans la moindre coquille, sauf erreur, je n'en ai repéré aucune. Et tout ça pour exactement deux fois le prix de la Duchesse de Langeais de Balzac dans la même collection, à savoir 5,80 €. Et donc, si vous avez un cadeau à faire, vous avez le choix entre deux Duchesses de Langeais ou un seul Notre cœur. Et si c'est pour vous, vous pouvez peut-être commencer par celui-ci. Balzac, il y a toujours de quoi faire, mais ça, c'est vraiment on aura l'occasion d'y revenir, c'est un petit bijou. Bon, évidemment, les raisons pour lesquelles c'est un petit bijou, je préférerais que ce soit Delphine de Vigan qui les expose. C'est elle qui m'a fait découvrir ce texte. Et je crois qu'elle nous a préparé, comme toujours, à titre apéritif, une lecture de quelques extraits.
Tout à fait.
Mais à vrai dire, vous êtes évidemment libre de parler du texte, de votre amour de ce texte, des raisons qui vous l'ont fait découvrir auparavant. Vous pouvez ne pas vous lancer dans la lecture comme ça, à pieds joints. Vous pouvez...
Alors déjà, je vais essayer d'allumer le micro.
Oui, là, c'est mieux peut-être.
Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien.
Non, c'est peut-être pas mal de commencer par lire. Et puis après, voilà. J'ai choisi, en fait, c'était compliqué de trouver un extrait à lire pour ce texte, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Et comme je ne suis pas comédienne, c'est très compliqué pour moi de lire des dialogues. Donc j'ai d'abord cherché un extrait qui comportait peu de dialogues. Et j'avais pensé dans un premier temps vous lire la rencontre entre Mariol et Madame de Burne, dont on reparlera sans doute au cours de cet entretien. Et puis je me suis dit que ça, c'était pas forcément la meilleure entrée en matière. Et donc j'ai choisi deux courts extraits que je vais enchaîner, qui ont lieu après cette rencontre. Ils se sont rencontrés. Elle l'a séduit, comme elle séduit absolument tous les hommes. Et il a résisté un petit peu plus que d'autres, mais elle a fini par le conquérir. Ils ont initié un certain nombre de rendez-vous qui vont avoir lieu dans une petite maison dans Paris, où ils vont se retrouver. Il l'a possédé, il est le premier homme finalement de tous ces hommes qui la fréquentent. Il est le premier, en tout cas à ce qu'on sache, qui ait un rapport charnel avec elle. C'est une femme qui sinon est connue pour séduire les hommes mais se refuser à eux. Et donc ils ont déjà eu un certain nombre de rendez-vous, mais l'extrait que je vais vous lire évoque finalement l'insatisfaction qui lui reste. Alors ça va être très pratique. Quand elle l'eut quitté, une heure plus tard, car elle était fort pressée, il retourna seul dans la petite maison solitaire et s'assit sur une chaise basse dans leur chambre. En tout son être, en toute son âme, l'impression de ne l'avoir pas plus possédée que si elle n'était point venue, laissait une sorte de trou noir au fond duquel il regardait. Et il n'y voyait rien. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait plus. Si elle n'avait point échappé à son baiser, elle venait du moins d'échapper à l'embrassement de sa tendresse par une absence mystérieuse de la volonté d'être à lui. Elle ne s'était pas refusée, elle ne s'était pas dérobée. Mais il semblait que son cœur ne fût point entré avec elle. Il était resté quelque part, très loin, flânant, distrait par de petites choses. Il s'aperçut alors clairement qu'il l'aimait déjà avec ses sens autant qu'avec son âme, plus peut-être. La déception de ses caresses inutiles l'agitait d'une frénétique envie de courir derrière elle, de la ramener, de la reprendre. Mais pourquoi ? À quoi bon ? Puisque le souci de cette mobile pensée était ailleurs ce jour-là. Il devait donc attendre les jours et les heures où viendrait à cette fuyante maîtresse, ainsi que ses autres caprices, le caprice d'être amoureuse. Il rentra chez lui lentement, très là, à pas pesant, les yeux sur le trottoir, fatigué de vivre. Et il songea qu'il n'avait pris aucun rendez-vous prochain, ni chez elle, ni ailleurs. Je saute un passage. J'en profite. Il les connaissait à présent, les longs séjours dans le petit kiosque, derrière la porte. La pluie tombait sur le chaume dont il l'avait fait couvrir, puis s'égouttait le long de la cloison de planches, et à chaque station dans cette chapelle de l'attente, il refaisait les mêmes réflexions, recommençait les mêmes raisonnements, repassait par les mêmes espérances, les mêmes inquiétudes et les mêmes découragements. C'était pour lui une lutte imprévue, incessante, une lutte morale, acharnée, épuisante, avec une chose insaisissable, avec une chose qui peut-être n'existait pas, la tendresse de cœur de cette femme. Comme ils étaient bizarres, leur rendez-vous. Tantôt elle arrivait rieuse, animée d'envie de causer, et s'asseyait sans ôter son chapeau, sans ôter ses gants, sans lever son voile, sans même l'embrasser. Elle n'y pensait pas souvent ces jours-là, à l'embrasser. Elle avait en tête un tas de préoccupations captivantes, plus captivantes que le désir de tendre ses lèvres au baiser d'un amoureux que rongeait une ardeur désespérée. Il s'asseyait à côté d'elle, le cœur et la bouche pleins de paroles brûlantes qui ne sortaient point. Il l'écoutait, il répondait, et tout en paraissant s'intéresser beaucoup à ce qu'elle lui racontait, il essayait parfois de lui prendre une main, qu'elle abandonnait sans y songer, amicale et le sang calme. Tantôt qu'elle paraissait plus tendre, plus à lui. Mais lui qui la regardait avec des yeux inquiets, avec des yeux perspicaces, avec des yeux d'amant impuissant à la conquérir tout entière, comprenait, devinait que cette affectuosité relative tenait à ce que sa pensée n'avait été agitée et détournée par personne et par rien ces jours-là. Ses constants retards d'ailleurs prouvaient à Mariol combien peu d'empressement la poussait à ses rencontres. On se hâte vers ce qu'on aime, vers ce qui plaît, vers ce qui attire, mais on arrive toujours trop tôt à ce qui ne séduit guère, et tout sert de prétexte alors pour ralentir et interrompre la marche. retarder l'heure vaguement pénible. Une singulière comparaison avec lui-même lui revenait sans cesse. Pendant l'été, le désir de l'eau froide lui faisait accélérer sa toilette quotidienne et sa sortie matinale vers la douche, tandis que, pendant les grandes gelées, il trouvait tant de petites choses à faire chez lui avant de partir qu'il n'arrivait toujours à l'établissement avec une heure plus tard que d'habitude. Les rendez-vous d'Auteuil ressemblaient pour elle à des douches d'hiver. Depuis quelque temps, d'ailleurs, elle espaçait souvent ses rendez-vous, les remettait au lendemain, envoyait des dépêches de la dernière heure, semblait à la recherche de prétextes, d'impossibilités, qu'elle découvrait toujours acceptables, mais qui le jetaient en des agitations morales et dans un énervement physique intolérable. Si elle avait laissé apparaître quelques refroidissements, quelques ennuis de cette passion qu'elle voyait, qu'elle sentait toujours s'accroître, il se serait peut-être irrité, puis froissé, puis découragé, puis apaisé. Mais elle se montrait au contraire plus attachée à lui que jamais, plus flattée de son amour, plus désireuse de le conserver, sans y répondre autrement que par des préférences amicales qui commençaient à rendre jaloux tous ses autres admirateurs. Chez elle, elle ne le voyait jamais assez, et le même télégramme qui annonçait à André un empêchement... pour Auteuil, le priait toujours avec instance de venir dîner ou passer une heure dans la soirée. Il avait pris d'abord ces invitations-là pour des dédommagements, puis il avait dû comprendre qu'elle aimait beaucoup le voir, plus que tous les autres, qu'elle avait vraiment besoin de lui, de sa parole adoratrice, de son regard amoureux, de son affection enveloppante et proche, de la caresse discrète de sa présence. Elle en avait eu besoin comme une idole pour devenir vrai Dieu, a besoin de prière et de foi. Dans la chapelle vide, elle n'est qu'un bois sculpté. Mais si seulement un croyant entre dans le sanctuaire, adore, implore, prosterné et gémit de ferveur, ivre de sa religion, elle devient l'égale de Brahma, d'Allah ou de Jésus. Car tout être aimé est une espèce de Dieu. Plus qu'aucune, Madame de Burne se sentait née pour le rôle de fétiche, pour cette mission donnée aux femmes par la nature d'être adorées et poursuivies, de triompher des hommes par la beauté, la grâce, le charme et la coquetterie. Elle était bien cette sorte de déesse humaine, délicate, dédaigneuse, exigeante et hautaine, que le culte amoureux des mâles enorgueillit et divinise comme un encens. Cependant, son affection pour Mariol et sa vive prédilection, elle les lui témoignait presque ouvertement, sans souci du qu'en dira-t-on, et peut-être avec le secret désir d'exaspérer et d'enflammer les autres. On ne pouvait plus guère venir chez elle sans l'y trouver, installée presque toujours dans un grand fauteuil que la Marthe appelait la salle du desservant. Et elle ressentait un sincère plaisir à demeurer seule avec lui pendant des soirées entières, causant et l'écoutant parler. Elle prenait goût à cette vie intime qu'il lui révélait, à ce contact incessant avec un esprit agréable, éclairé, instruit, et qui lui appartenait, dont elle était aussi bien la maîtresse que des petits bibelots qui traînaient sur sa table. Elle lui abandonnait également peu à peu beaucoup d'elle-même, de sa pensée, de sa secrète personne, en ces confidences affectueuses qui sont aussi douces à faire qu'à recevoir. Elle se sentait avec lui plus libre, plus sincère, plus découverte, plus familière qu'avec les autres, et l'on aimait davantage. Elle éprouvait aussi cette impression chère aux femmes de donner vraiment quelque chose, de confier à quelqu'un tout le disponible d'elle, ce qu'elle n'avait jamais fait. Pour elle, c'était beaucoup, mais pour lui, c'était peu. Il attendait. Il espérait toujours la grande débâcle définitive de l'être qui livre son âme dans ses caresses. Les caresses, elle semblait les considérer comme inutiles, gênantes, plutôt pénibles. Elle s'y soumettait, non pas insensible, mais vite lassée. Et cette lassitude, sans doute, éveillait en elle de l'ennui. Les plus légères, les plus insignifiantes, semblaient même la fatiguer et l'énerver. Quand, tout en causant, il s'emparait d'une de ses mains pour baiser ses doigts, qu'il gardait un peu l'un après l'autre entre ses lèvres, les attirant par une petite aspiration comme des bonbons, elle semblait toujours désireuse de les ôter de là. Et, tantôt son bras, il sentait un effort secret de retraite. Quand à la fin de ses visites, il déposait sur son cou, entre le col de la robe et les cheveux d'or de la nuque, un long baiser qui cherchait l'arôme de son corps sous les plis des étoffes adhérentes à la chair. Elle avait toujours un léger mouvement en arrière, puis une imperceptible fuite de sa peau sous cette bouche étrangère. Il percevait cela comme des coups de couteau. Il s'en allait, avec des plaies qui saignaient sans cesse dans la solitude de sa tendresse. Comment n'avait-elle pas eu, au moins, cette période d'entraînement qui succède chez presque toutes les femmes à l'abandon volontaire et désintéressé de leur corps ? Elle est courte souvent, suivie par la fatigue et puis par le dégoût. Mais il est si rare qu'elle n'existe pas du tout, pas une heure, pas un jour. Cette maîtresse avait fait de lui non pas un amant, mais une sorte d'associé intelligent de sa vie. De quoi se plaignait-il ? Celle qui se donne tout entière, ne se donne pas tant peut-être. Il ne se plaignait pas, il avait peur. Il avait peur de l'autre, de celui qui viendrait tout à coup, rencontré demain ou après-demain, quelconque artiste mondain, officier, cabotin, n'importe qui, né pour plaire à ses yeux de femme et qui plairait sans autre raison, parce qu'il était celui-là, celui qui ferait pénétrer pour la première fois en elle l'impérieuse envie d'ouvrir les bras. Il était jaloux de l'avenir, comme il avait été par moments jaloux du passé inconnu. Et tous les intimes de la jeune femme commençaient à devenir jaloux de lui. Ils en jasaient entre eux, et faisait même devant elle de très discrètes et obscures allusions. Pour les uns, il était son amant. Les autres, suivant l'opinion de la Marthe, prétendaient qu'elle s'amusait, comme toujours, à l'affoler, lui, pour les énerver et les exaspérer, eux, et rien de plus. Son père s'émut et lui fit des observations qu'elle reçut avec hauteur. Et plus elle voyait la rumeur croître autour d'elle, plus elle s'obstina à témoigner ouvertement ses préférences à Mariol, par une bizarre contradiction avec toute la prudence de sa vie. Mais lui s'inquiétait un peu de ces murmures de suspicion. Il lui en parla. « Que m'importe, dit-elle, au moins si vous m'aimiez d'amour. Est-ce que je ne vous aime pas, mon ami ? Oui et non. Vous m'aimez bien chez vous et mal ailleurs. Je préférerais le contraire pour moi et même aussi pour vous. » Elle se mit à rire en murmurant « On fait ce qu'on peut. » Il reprit. Si vous saviez dans quelle agitation me jettent les efforts que je tente pour vous animer. J'ai l'impression tantôt de vouloir enlacer de l'insaisissable, tantôt d'étreindre de la glace qui me gèle en fondant dans mes bras. Elle ne répondit point, n'aimant guère ce sujet, et elle prit cet air distrait qu'elle avait souvent à Auteuil. Il n'osa pas insister. Il la regardait comme on regarde les objets précieux des musées qui tentent si fort les amateurs et qu'on ne peut pas emporter chez soi. Ces jours, ces nuits, n'avaient plus pour lui que des heures de souffrance, car il vivait avec cette idée fixe, encore plus avec le sentiment qu'avec l'idée qu'elle était à lui sans être à lui, conquise et libre, prise et imprenable. Il vivait autour d'elle, tout près d'elle, sans arriver jusqu'à elle, et il l'aimait avec toutes les convoitises non rassasiées de son âme et de son corps. Comme il avait fait au début de leur liaison, il se remit à lui écrire. Une fois, il avait vaincu avec de l'encre la première défense de sa vertu. Avec de l'encre, il pourrait peut-être emporter encore cette dernière intime et secrète résistance. Espaçant un peu ses visites, il lui répéta en des lettres presque quotidiennes l'inanité de son effort d'amour. De temps en temps, quand il avait été fort éloquent, passionné, douloureux, elle lui répondait. Ses lettres à elle, datées par chic de minuit, 1h, 2h ou 3h du matin, étaient claires, nettes, bien pensées, dévouées, encourageantes et désolantes. Elle y raisonnait fort bien, y mettait de l'esprit, même de la fantaisie. Mais il avait beau les relire, il avait beau les trouver justes, intelligentes, bien tournées, gracieuses, satisfaisantes pour sa vanité d'homme, elle ne contentait pas son cœur. Elle ne le contentait pas plus que les baisers donnés dans la maison d'Auteuil. Il cherchait pourquoi. Et à force de les apprendre par cœur, il finit par les si bien connaître qu'il en trouva la raison. Car c'est par l'écriture toujours qu'on pénètre le mieux les gens. La parole éblouit et trompe parce qu'elle est mimée par le visage, parce qu'on la voit sortir des lèvres et que les lèvres plaisent et que les yeux séduisent. Mais les mots, noirs sur le papier blanc, c'est l'âme toute nue.
vous écoutant lire Delphine de Vigan, je ne me suis pas aperçu tout de suite que vous aviez choisi le passage qui précisément convergeait vers cette notation qui est la notation, une notation de Maupassant lui-même. Le passage que vous avez choisi, qui se trouve dans la deuxième partie du roman, le roman est divisé en trois parties. On est à peu près au milieu, une espèce de stase narrative au milieu. D'ailleurs, le passage que vous avez choisi était un imparfait de narration. On a cette petite pointe singulière du dialogue, du bref dialogue de frustration entre Mariol et Madame de Burne. Mais sinon, on revient très très vite à l'imparfait. Et cet imparfait qui conduit à un nouvel échange de lettres, conduit à cette notation, cette surprise de Maupassant sur l'écriture. Évidemment, tout de suite, on a envie de vous poser la question, est-ce que vous adhérez à cette vision-là de l'écriture comme dénudation de la vérité de la personne ?
C'est vrai que ça correspond à quelque chose que je crois. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais envie de m'arrêter sur cette notation, même si j'aurais pu aller plus loin dans le récit des affres de ce pauvre Mariol. Oui, tout à fait. Je crois que en effet, quand on écrit soi-même, on accorde aussi une importance particulière à ce qu'on lit des autres. En tout cas, moi, j'ai le sentiment souvent de m'être dévoilé le plus dans ce que j'écrivais. Je ne parle pas forcément de la littérature, mais par exemple de la correspondance. Quand j'écris à quelqu'un, souvent, ça me permet de dire davantage que ce que je pourrais dire par la parole. Et je me rends compte que souvent, justement, si je n'arrive pas à exprimer par la parole quelque chose qui m'importe ou qui m'importe de dire, je vais l'écrire. Et du coup, j'accorde une importance particulière à ce que les gens m'écrivent. Et je trouve assez joli et significatif que souvent, quand on écrit des livres, quand les gens, même les gens qui vous sont proches, réagissent à ce que vous avez écrit, ont envie de vous faire part de ce qu'ils ont ressenti à la lecture de votre livre. Beaucoup de gens le font par écrit, alors qu'ils pourraient tout à fait le dire. Ça tend à prouver qu'on ne peut pas toujours dire ce qu'on peut écrire.
Oui, d'ailleurs, vous avez signalé à titre préliminaire qu'il y avait beaucoup de dialogues dans notre cœur. Maupassant était d'ailleurs aussi un auteur de théâtre, hein, on l'oublie un peu aujourd'hui, qui a été joué avec succès de son vivant. Et c'est effectivement un dialoguiste très très fin. Les quelques dialogues, ils ne sont pas si nombreux, mais ils sont marquants, ils sont très très efficaces. C'est un peu effectivement comme si Maupassant explorait dans notre cœur la variété des formes d'échange écrites, parlées, entre ces deux êtres, entre ce héros, Mariol, et sa bien-aimée, Madame de Burne. Ce qui n'était peut-être pas sensible dans le passage que vous avez si bien lu, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas fermé sur le seul point de vue de Mariol. C'est peut-être le point de vue dominant, mais on a aussi le point de vue de Madame de Burne. Là, on l'a vu plutôt du point de vue de celui qui reste plutôt le héros, le héros dominant. Mais on entre parfois également dans le... plus secrètement, peut-être, plus à distance, dans le rapport de ce personnage vraiment fascinant qu'est Madame de Burne. Et là, il y a deux choses auxquelles je songe. D'abord, c'est les noms de ces personnages. Hein. J'ai vu votre petit éclair d'ironie dans l'œil quand vous avez dit « ce pauvre Mariol ». C'est vrai qu'il s'appelle Mariol. Et c'est vrai que ce Mariol... Il n'est pas manipulé, mais il est de moins en moins maître de lui, de plus en plus vidé de toute sa substance. Il a d'ailleurs des expressions très fortes, Maupassant, pour exprimer cette possession, cette aliénation dans l'amour de Mariol, effectivement, petite marionnette, non pas manipulée, mais animée et entièrement au pouvoir de Madame de Burne. Quant au nom de Madame de Burne, il y a une note de l'éditrice qui signale que le terme, hein, dans toute sa brutalité argotique, avait déjà le sens qu'on lui connaît aujourd'hui du tour de Maupassant, et que Maupassant évidemment le connaissait et s'est amusé, s'est certainement amusé à nommer son personnage d'un nom pareil qui paraît à ce point contredire ce qu'elle projette et ce qu'on s'imagine d'elle. C'est une grande mondaine, sa cour est une cour d'artiste, elle est extrêmement élégante, extrêmement raffinée, et pourtant Maupassant a souhaité lui donner un nom pareil. Alors, vous qui êtes romancière.
Oui, je pense que, bien sûr, je me suis posé la question quand j'ai relu ce texte. Je ne me souviens pas, parce que je l'ai lu la première fois, j'étais toute jeune. Je l'ai relu il y a quelques années, et je m'étais posé la question de savoir si le terme signifiait la même chose, en effet, qu'à notre époque. J'avais trouvé cette réponse. En même temps, il est évident que Maupassant l'a voulu. L'a voulu ainsi, et je pense que c'est une manière de souligner les caractères masculins qu'a cette femme, bien qu'elle soit présentée comme une immense et irrésistible séductrice. Elle porte finalement, enfin, quand on lit l'œuvre de Maupassant, où bien longtemps ce sont les hommes qui sont les bourreaux des cœurs et pour qui les femmes se pâment et parfois se trouve dévasté d'amour. Et là, il y a quelque chose qui s'est complètement retourné. Je pense à Bellamy, par exemple, qui fonctionne un peu en miroir de ce roman-là, qui est beaucoup plus tardif, puisque c'est le dernier roman écrit par Maupassant. Et finalement, il y a quelque chose d'un peu inversé. Cette fois, c'est la femme a tous les attributs, entre guillemets, enfin, pas tous évidemment, mais en tout cas le pouvoir, la puissance qu'avaient les hommes dans les précédents romans. C'est Michel de Burne qui incarne ça et qui a un pouvoir sans limite sur les hommes. Et c'est cette fois, c'est l'homme, c'est Mariol qui se trouve dévasté par cet amour qui ne sera jamais tout à fait satisfait.
Oui, le fait est que dans le dossier qui accompagne l'édition, on découvre que les critiques de l'époque, à commencer par Anatole France, donc, qui a écrit vraiment un compte-rendu brillant du roman, et qui était un lecteur très fin, les critiques de l'époque, effectivement, ont ressenti notre cœur comme une volonté de description, comme d'une étape très très particulière, Dans la guerre des sexes, ou dans l'histoire des personnes érotiques et des conduites érotiques. Il y a un passage particulièrement brillant d'Anatole France, où l'art du XVIIe siècle croyait à la vertu, du moins avant Racine, qui fut le plus audacieux, le plus terrible et le plus vrai des naturalistes, et peut-être à certains égards le moins moral. L'art du XVIIIe siècle croyait à la raison, l'art du XIXe siècle croyait d'abord à la passion, avec Chateaubriand, Georges Sand et les romantiques. Maintenant, avec les naturalistes, ils ne croient plus qu'à l'instinct. Et là-dessus suit effectivement une analyse de la conduite instinctive des personnages dans le roman, et de cette espèce de curieuse inversion effectivement des rôles proie-prédateur, homme-femme, où effectivement c'est bel et bien la femme qui devient prédatrice, dominatrice, et l'homme finalement qui, se croyant prédateur, se découvre proie. Et ça, ça paraît extrêmement, comment dire, moderne, hein, les personnages sont d'une modernité tout à fait étonnante, pas seulement parce que ça préfigure un amour de soi, mais seulement parce que les comportements érotiques, les stratégies, les attitudes, cette inversion, ce mélange des rôles sexuels est très très troublant. Mais oui, vous voulez réagir.
Oui, non, je voulais dire ça justement. Il y a quelque chose d'extrêmement moderne dans ce personnage de Michel de Burne, et on voit d'ailleurs l'évolution du travail de l'œuvre de Maupassant, mais aussi probablement de l'époque entre ses premiers romans et celui-ci, puisque comme le personnage de Jade dans le roman Une vie. Michel de Burne est une femme qui a été mariée à un homme, qui a été mariée très jeune, évidemment vierge, à un homme alors qu'elle n'avait visiblement aucune connaissance de ce qu'était le sexe. Et contrairement à Jeanne, qui, elle, une fois que son mari est mort, fait le choix de ne pas se remarier, reste seule et et dans la souffrance qui a été la sienne, la souffrance qui suit aussi la brutalité de ce mariage non voulu, dont elle ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Contrairement à Jeanne, le personnage de Michel de Burne se réapproprie complètement son destin, c'est-à-dire qu'une fois que son mari est mort, c'est une jeune veuve, elle a 28 ans, elle décide de ne pas se remarier, ce qu'elle aurait évidemment pu faire, et de mener ce salon, de devenir cette femme à ce point convoitée, etc. Donc d'une certaine manière, de prendre vraiment son destin en main. Il y a quelque chose, oui, d'extrêmement moderne dans sa façon d'être.
Vous diriez de le prendre en main ou de le mettre en scène, pour le coup ?
Un peu les deux, je pense.
Parce qu'on a quand même le sentiment qu'elle... que même si elle agit comme elle l'entend, et même si elle est absolument libre de ses initiatives et de ses mouvements, et même si elle règne sur son cercle, on a malgré tout le sentiment qu'elle est elle-même prisonnière d'un rôle, même si elle l'a choisi.
Oui, c'est d'ailleurs tout l'intérêt du roman, et c'est tout l'art de Maupassant que ces personnages, et c'est le cas aussi pour Mariol, ne soient pas à ce point univoques, et ils sont tous les deux assez troubles en fait. Et elle, qu'on pourrait trouver horriblement cruelle, voire perverse, finalement parvient à nous toucher. Parce qu'on sent en effet que cette mise en scène dans laquelle elle est en perpétuelle représentation, à ce point maîtresse d'elle-même, finalement est une espèce de rempart qu'elle a créé, probablement pour abriter autre chose. Alors, il n'y a pas toute cette psychologie, n'est heureusement pas si évidente dans le roman, mais malgré tout, à plusieurs reprises, je trouve, Maupassant nous donne comme ça des petits indices qui laissent à penser qu'il y a chez elle une forme de... si ce n'est de désarroi, en tout cas de doute, et probablement oui, d'une forme de souffrance ou d'impuissance malgré cette toute puissance au contraire. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce personnage soit beaucoup plus ambivalent que ce qu'on pourrait imaginer.
Est-ce que vous avez d'ailleurs eu le sentiment à la lecture que les personnages étaient comme, enfin les principaux personnages, en tout cas était comme clivés, comme s'ils séparaient différents secteurs de leur existence, à la fois temporellement et géographiquement.
Oui, c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment. C'est vrai pour elle, encore que on la voit beaucoup dans son cercle. Y compris quand l'auteur nous emmène un petit peu de son côté dans ses réflexions et ses sentiments à elle, et on a assez peu accès finalement, enfin en tout cas en ce qui concerne Michel de Burne, je crois que c'est la volonté de Maupassant était qu'elle reste très mystérieuse. Pour Mariol, il me semble qu'on a un petit peu plus d'indices et que là aussi il est clivé dans le sens où il y a ce personnage quand il est en représentation, quand il est avec elle, quand il est dans cette quête éperdue d'un amour qu'il n'obtiendra pas, et puis quand il se retire en lui-même, ça on le voit à travers ce moment où il décide à un moment donné du roman de lui échapper, il y parvient provisoirement.
C'est la troisième partie.
Voilà. Et là, on a accès géographiquement parce qu'il s'exile, justement, il a besoin de partir, de quitter Paris pour échapper à son emprise. Donc oui, probablement à des lieux géographiques correspondent un petit peu des états d'âme différents, c'est ça que vous vouliez dire ?
Non, c'est que ce qui m'avait frappé à la lecture, c'est que Michel de Burne donc règne sur son salon, où elle paraît intouchable, où elle son salon est organisé comme l'autel d'une divinité, hein, auquel on rend un culte, c'est le passage que vous avez cité, mais la divinité, une fois sortie de son temple, se rend à des rendez-vous secrets à Auteuil, dont elle négocie les heures en fonction de son carnet mondain, où là, elle se donne à son amant, enfin, elle se donne justement, le tourment de Mariol, c'est qu'elle ne se donne, pour citer l'autre, elle ne se donne jamais, elle se donne pas toutes, justement, jamais toutes. Et, Et jamais Mariol se heurte contre, sans cesse, comme une mouche dans une bouteille, contre cette espèce de mur invisible qu'elle dresse entre sa face sociale et sa face qu'on voudrait appeler intime, mais qui justement ne l'est pas, dans la mesure où il y a toujours cette résistance, ce refus de totaliser l'expérience, ce refus d'engager absolument l'ensemble de la personne dans la relation.
Oui, d'ailleurs, enfin, tel qu'il l'a décrit quand elle rejoint à Auteuil, donc justement loin de son cercle, on le sent assez vite, on le sent dans le passage que j'ai lu, mais on le sent à d'autres moments quand il en est question, qu'au fond c'est presque une obligation, un rendez-vous qui l'intéresse finalement assez peu et qui va être totalement déterminé par ce qu'elle a vécu avant. L'humeur qu'elle aura à ce moment-là est déterminée par l'endroit d'où elle vient. C'est une femme qui finalement n'existe vraiment que dans son cercle, là où elle peut régner, là où elle peut se regarder elle-même, parce que c'est une femme qui se mire beaucoup dans les miroirs. Voilà, on a l'impression que c'est un endroit qui l'intéresse finalement assez peu, cette maison d'Auteuil.
Oui, là, vous avez parlé des miroirs et vous avez utilisé le pluriel, justement. Vous avez été sensible à ce détail, je crois, de la description du cabinet de toilette.
Oui, oui, il y a une description vraiment fantastique de son cabinet de toilette et d'un miroir à triple face dans lequel elle se mire et dans lequel elle voit finalement comme trois reflets d'elle-même, mais presque comme trois femmes différentes. Et c'est un passage qui est très beau, évidemment, comme je le raconte, c'est beaucoup moins intéressant que quand on le lit, mais qui à la fois indique évidemment le narcissisme de cette femme. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autosuffisance. Moi je sais qu'il y a pas mal d'hypothèses qui disent que, alors peut-être est-elle frigide, peut-être est-elle lesbienne. Il paraît que dans des versions antérieures du roman c'était plus clair, en tout cas les allusions à sa fille qui étaient plus claires. En tout cas on sent que c'est une femme qui d'une certaine manière s'auto-satisfait, on va dire, et en particulier quand elle s'observe, elle se trouve particulièrement belle, enfin, d'une beauté irréprochable, et la description de Maupassant est assez cruelle d'ailleurs à ce moment-là. Et en même temps il me semble que ça indique aussi à quel point cette femme est complexe, à quel point justement elle est mystérieuse, elle est inaccessible, elle reste opaque en fait.
Il y a d'une certaine façon deux opacités, vous l'aurez compris, de reste, deux opacités complémentaires dans ce roman. C'est l'opacité de Mariol et de son désir d'être aimé, qui se heurte toujours à cette limite invisible, que d'ailleurs Michel de Burde ne conteste pas, parce qu'on n'a peut-être pas précisé, mais l'un des traits de sa complexité, c'est qu'elle est avec lui d'une absolue sincérité. Ils ont des conversations
depuis
très sincères.
Le début, oui.
Oui, depuis le début. Elle est très claire avec lui.
Oui, mais depuis le début, la toute première fois qu'ils se rencontrent, elle s'intéresse de savoir ce qu'on dit d'elle dans le monde. Et finalement, elle le devance d'ailleurs en disant « Je suis une coquette. Oui, je suis une coquette. Vous n'obtiendrez jamais de moi mon amour. » Et elle le prévient finalement de ce qui va lui arriver. Et c'est exactement ce qui va se passer. De même que quand il lui demande si elle l'aime, elle lui répond qu'elle l'aime un peu ou qu'elle l'aime beaucoup, mais elle ne lui dira jamais qu'elle l'aime tout court.
Elle l'aime bien.
Elle l'aime bien,
elle
voilà.
Bien. Oui, c'est le petit mot de trop qui ruine tout ce qui précède, voilà, et qui achève de l'affoler. Et l'autre mystère complémentaire, l'autre désir étrange qui s'ajuste à ce désir d'être aimé qui est inassouvissable pour le malheureux Mariol, c'est le désir de cette femme, désir d'être adoré peut-être plutôt. On a le sentiment effectivement que devant l'amour, elle a une stratégie qui tient de l'évitement, de la sublimation, je ne sais pas trop comment nommer ça.
Moi non plus, effectivement, on sent qu'elle a besoin, c'est un petit peu ce qui est décrit dans le passage que j'ai lu, c'est-à-dire qu'elle a besoin de lui, à sa manière.
C'est ça qu'il faut dire, oui. elle a besoin de lui, parce que ce n'est pas simplement une chatte sadique qui joue avec une souris, elle a bel et bien besoin de lui, elle le lui dit d'ailleurs.
Oui, et probablement elle l'aime bien, elle a de l'affection pour lui. en tout cas, enfin, j'ai le sentiment que probablement au moment où elle accepte pour la première fois, alors qu'elle l'a refusé à tous les autres, à tous ces nombreux soupirants, à partir du moment, lorsqu'elle accepte de faire l'amour avec lui, probablement elle imagine que quelque chose va se passer. Qui n'advient pas, ou en tout cas qui ne l'intéresse pas suffisamment pour que ça suffise à poursuivre dans cette voie. Et assez vite, elle revient au schéma qui est le sien, c'est-à-dire un homme qui l'adule et qui est à ses pieds en permanence, mais avec qui elle a aussi des conversations qui semblent malgré tout l'intéresser, parce qu'elle se plaît à converser avec lui. C'est que Mariol est décrit comme quelqu'un de plaisant, de cultivé, d'intéressant, et donc c'est pas seulement non plus ce pouvoir sadique qu'elle exerce sur lui, bien sûr.
D'ailleurs c'est comme ça que leur rapport commence. Contrairement à Swann qui tombe avec Odette sur une femme qui n'était même pas son genre, dit Proust, là au contraire, justement, Maupassant semble s'être ingénié à prouver qu'il n'y avait vraiment aucun obstacle de principe entre les deux amants. Quand Mariol est introduit dans le cercle de Madame de Burg, il est précédé d'une réputation flatteuse, il a des amis sur place qui ont fait cette publicité, qui lui ont préparé le terrain. Madame de Burg est demandeuse, elle veut connaître cet homme. Le récit d'ailleurs de la première soirée est remarquable et il se conclut sur une conversation mémorable entre ceux qui ne sont pas encore amants. Et cette conversation est une conversation qui est rapportée simplement au style indirect, mais au cours de laquelle, dit Maupassant, l'un et l'autre découvrent à quel point ils se comprennent immédiatement, à demi-mot, comme ils sont comme deux âmes sœurs, et ils en restent eux-mêmes ébahis.
C'est un terme qui revient souvent d'ailleurs chez Maupassant, cette évidence de la rencontre entre certains esprits, et notamment entre certains esprits qui viennent du même cercle, de la même classe sociale, qui ont les mêmes origines en fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment dit de la même manière à peu de choses près dans Bel Ami. Cette évidence de l'entrée en relation, l'affinité spirituelle, intellectuelle entre deux êtres. Voilà.
D'ailleurs, maintenant que j'y songe, en parlant avec vous, le cercle de Madame de Burg est entièrement composé d'artistes. Elle a son romancier, c'est un peu comme un zoo, si vous voulez, des animaux rares. Donc elle a son romancier, elle a son peintre, elle a son musicien, elle tient beaucoup à son musicien, particulièrement précieux. Elle finit par avoir son sculpteur, qui semble-t-il n'est autre que Rodin. Et on a une description dans la troisième partie, ou à la fin de la deuxième, je ne me souviens plus exactement, où on a l'introduction de Rodin dans le cercle, mais on a une description brillantissime, très émouvante de Rodin et de ses mains qui avaient beaucoup impressionné Maupassant. C'est un portrait de Rodin qui est superbe, et un portrait de l'artiste en mouvement qui est maladroit en société, qui est assis comme un ours dans un coin, mais qui, dès qu'il parle de son art, s'anime et devient brillant. Donc, Madame de Burg règne sur ses artistes, mais justement, Mariol, lui, n'en est pas un. Il est à peu près la seule exception. À tel point, d'ailleurs, que quand Maupassant le présente, il parle d'un homme rentier de 37 ans, mais n'ayant rien fait de sa vie, et qui, au fond, mériterait presque d'être qualifié de raté.
Oui, je ne sais pas s'il n'est pas. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'il soit vraiment présenté comme un raté au départ. En tout cas, il est suffisamment riche effectivement pour subvenir à ses besoins. On comprend qu'il est quand même plutôt bel homme, etc. Là où je vous rejoins, en revanche, c'est que peut-être c'est précisément parce qu'il n'est pas un artiste, c'est ça qui le rend à ce point vulnérable. C'est-à-dire que là où probablement il aurait pu sublimer cet amour par l'art, et là où on peut se dire que les autres artistes qui fréquentent ce cercle de Michel de Burg ont finalement apaisé leur tourment en retournant vers leur art, c'est le cas de Lamarck, ce romancier qui nous est décrit, peut-être que là, Mariol est beaucoup plus désarmé, finalement, puisqu'il n'a, il n'a pas d'autre passion, il n'a pas d'autre élan dans sa vie que l'élan amoureux. Et il me semble que ça apparaît à plusieurs reprises, j'ai pas les passages en tête, mais en filigrane, cette espèce d'amputation, en fait, le fait qu'il ne puisse pas sublimer cet amour dans une forme artistique.
Mais est-ce que on ne pourrait pas dire, pour le coup, que c'est précisément cet amour-là qui, d'une certaine façon, lui tient lieu de réalisation artistique?
Peut-être.
C'est son œuvre à lui. C'est son œuvre à lui, d'une certaine façon.
Oui, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il s'y accroche et que malgré tout, il y revient.
Parce que, pour revenir à Mariol, dès les premières pages, donc, âgé d'environ 37 ans, André Mariol, célibataire et sans profession, assez riche pour vivre à sa guise, voyager et s'offrir même une jolie collection de tableaux modernes et de bibelots anciens, passait pour un garçon d'esprit, un peu fantasque, un peu sauvage, un peu capricieux, un peu dédaigneux, qui posait au solitaire plutôt par orgueil que par timidité. Très bien doué, très fin, mais indolent, apte à tout comprendre et peut-être à faire bien beaucoup de choses, il s'était contenté de jouir de l'existence en spectateur, ou plutôt en amateur. C'est un mot intéressant, ça, amateur, pour quelqu'un qui va devenir le seul amant, finalement.
Oui. En tout cas, c'est un amateur d'art, pour le coup, et de beauté, d'une manière générale. Donc, là aussi, il me semble que ça en fait la proie, une proie assez idéale pour Madame de Buren.
Oui, le passage auquel je faisais allusion, parmi ses intimes, il y avait surtout des artistes, le romancier Gaston de Lamarthe, qui est un peu un autoportrait brillantissime de Maupassant. Vous aimez bien ce passage, d'ailleurs?
Oui, j'adore ce personnage.
J'avoue que j'ai été étonné que vous ne lisiez pas ce portrait rapide de Lamarthe, parce que vous le citez dans votre entretien préliminaire, et c'est un passage qui est cité par tous les comptes rendus contemporains. Ils disent tous « Ah, lui, le romancier, c'est évidemment l'autoportrait, c'est brillant, il ne s'est pas raté, il ne s'est pas fait de cadeau non plus, mais qu'est-ce qu'il parle bien de son talent ?»
Oui, j'adore, je vais vous le dire quand même. Quant à Lamarthe, Gaston de Lamarthe, à qui sa particule avait inoculé quelques prétentions de gentilhomme et de mondain, c'était avant tout un homme de lettres, un impitoyable et terrible homme de lettres. Armé d'un œil qui cueillait les images, les attitudes, les gestes avec une rapidité et une précision d'appareil photographique, et doué d'une pénétration, d'un sens de romancier naturel comme un flair de chien de chasse, il emmagasinait du matin au soir des renseignements professionnels. Avec ses deux sens très simples, une vision nette des formes et une intuition instinctive des dessous, il donnait à ses livres, où n'apparaissait aucune des intentions ordinaires des écrivains psychologues, mais qui avaient l'air de morceaux d'existence humaine arrachés à la réalité, la couleur, le ton, l'aspect, le mouvement de la vie même.
C'est pas mal comme
portrait. C'est une belle définition.
Oui. Et je crois que vous dites dans la petite interview de présentation que vous lui enviez un peu ces qualités-là. Vous sentez pas doué?
La vision comme ça, si précise des formes et l'intuition des dessous, je pense que c'est vraiment les qualités dont rêve tout romancier. J'espère en les avoir un tout petit peu.
N'empêche, bon, donc Gaston de Lamarthe est un des amis de Mariol. Qui fréquente aussi les musiciens Massival, les peintres Jobin, Rivolet de Modol, qui semblaient priser beaucoup sa raison, son amitié, son esprit et même son jugement. Bien qu'au fond, avec la vanité inséparable du succès acquis, ils le tinssent tous pour un très aimable et un très intelligent raté. Et là, vous avez raison, c'est que ce n'est pas Maupassant qui le qualifie de raté.
Non,
ce sont ses sympathiques camarades, effectivement.
Oui, précisément parce qu'il n'est pas, contrairement à lui, il n'est pas un artiste.
Voilà. Et d'ailleurs, dans le passage que vous avez lu, ce qui est amusant, évidemment, c'est que ce romancier présenté avec une telle pénétration presque intuitive des dessous et ainsi de suite, voilà, c'est un pitoyable observateur à qui rien n'échappe. Sera précisément le seul qui soutiendra Mordicus que Mariol n'est pas la bande de Madame de Buren. Il se trompe complètement.
En revanche, il lui fait, lors de leur première rencontre, puisque c'est avec lui que repart Mariol lors de cette première soirée, sur le chemin du retour, ils se prennent le bras et Lamarthe lui décrit avec une précision effarante et une cruauté effarante tous les affres par lesquels il va passer. Il comprend très vite que son ami est tombé dans les filets de Madame de Burne, et il lui décrit, voilà, c'est le début de la crise, et en gros il lui décrit toutes les horreurs qui vont lui arriver et qui ne manqueront pas de lui arriver.
Et le fait est que ça se réalise. On ne peut pas dire que le suspense du roman repose sur ça. Mais pourtant, il y a un vrai suspense.
Mais ce qui est très intéressant, on parlait de modernité justement tout à l'heure. Ce qui m'a frappé quand j'ai relu le roman pour l'interview, c'est à quel point finalement il ne se passe rien. Alors j'espère que ça ne vous découragera pas de le lire, mais contrairement à d'autres romans de Maupassant, où malgré tout il y a des rebondissements, des péripéties, etc. Là, en gros, les choses sont données d'entrée de jeu. On sait à peu près ce qui va se passer très vite, d'une part parce que c'est annoncé en grande partie par Lamarthe, mais parce qu'on voit très bien venir les choses et comment on va opérer la cristallisation amoureuse. Et pour autant, on est tenu en haleine du début à la fin, parce que c'est une description tellement juste et tellement fine de ces deux personnages, lesquels, comme on le disait, sont à la fois mystérieux, ambivalents, intéressants, enfin, ne sont pas univoques. Enfin, pour moi, ça, c'est quand même quelque chose d'assez moderne, le fait de s'autoriser d'être à ce point si peu dans l'action. En fait.
Alors, d'ailleurs, il y a peu, nous avions l'occasion de discuter Adolphe ici. Et tout à fait par hasard, le rapprochement d'Adolphe, de Benjamin Constant et de notre cœur, de Maupassant, comme ça, l'un pour ouvrir le 19e siècle et l'autre, d'une certaine façon, pour le fermer, était très très éclairant. Parce que ce sont effectivement deux romans d'analyse, deux romans d'amour et deux romans dans lesquels, si l'on veut, il ne se passe rien, dans lesquels les incidents marquants peuvent se compter sur les doigts d'une main, mais où l'action... Toute l'action réelle est une action intérieure.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et à propos de d'art romanesque de fin du 19e siècle, très très fugitivement dans votre interview, parce que j'oublie toujours de dire que les écrivains que nous invitons ici consacrent des interviews pour parler de leur passion de l'œuvre dans cette édition. Ce sont toujours les mêmes questions qui sont posées, et voir comment les différents auteurs y répondent, c'est toujours passionnant. Par exemple, à ma connaissance, Delphine de Vigan, je crois que vous devez être la seule à dire que pour qui le personnage préféré ou le personnage fétiche du roman n'est pas l'un des protagonistes. Voilà.
Il est quand même dans le livre.
Il est dans le livre, mais c'est pas l'un des protagonistes. C'est la première fois, je crois, que je vois ça. Mais vous aviez une autre remarque très très intéressante, très très fugitive, que vous ne développez pas, et là je souhaiterais que vous développiez, sur le fait que vous vous êtes aperçu que personnellement vous aviez un certain goût pour des œuvres dites mineures, des œuvres de transition, des œuvres qui hésitent sur une frontière.
Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est pour notre cœur, j'ai vraiment le souvenir de l'avoir lu. Pour cette raison-là, c'est-à-dire j'avais étudié quand j'étais jeune fille en classe de 3e et je vivais en Normandie, j'avais étudié Une vie, on avait étudié Le Horla aussi, et j'avais dû entendre dire, alors je ne sais plus si c'était par le professeur de lettres ou par le documentaliste que je fréquentais beaucoup le CDI, donc que Notre cœur était une œuvre de fin de vie de Maupassant, un petit peu raté ou un petit peu fade ou un petit peu inabouti, et comme un roman mal aimé en fait, et je crois que c'est ce qui m'avait donné envie de le lire. Et quand j'ai raconté ça dans cette interview, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné on choisit un livre plutôt qu'un autre, je me suis fait cette remarque qu'au fond c'était quelque chose que je pratiquais encore. C'est-à-dire qu'assez souvent, quand j'explore le travail d'un auteur, quand je le découvre, tout simplement, même si je ne vais pas forcément lire, comme beaucoup de gens, j'aime bien dans ce cas lire plusieurs romans ou plusieurs livres d'un même auteur d'affilée, et même si je ne vais pas lire toute l'œuvre, je ne pourrais pas quitter cette œuvre sans avoir lu le roman dit mineur ou de transition, ou celui qu'on considère comme un peu moins bon ou un peu moins intéressant ou qui n'est pas caractéristique du travail de l'artiste. Voilà. En général, ça m'intéresse.
Et oui, mais pourquoi ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je trouve, le fait est que je trouve souvent Ça m'est arrivé d'ailleurs deux fois assez dernièrement, enfin dans ces dernières découvertes d'auteurs, et il se trouve que là j'ai lu surtout de la littérature américaine. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Don DeLillo, que vous connaissez sans doute, qui a écrit des livres magistraux, et il y a un livre qui s'appelle Body Art, dont on parle souvent comme étant le livre un peu raté de Don DeLillo. Donc évidemment je l'ai lu, et je crois que c'est mon préféré. C'est un livre en effet qui est très très différent, et en même temps il me semble que ça m'a aidé à comprendre tout le reste de son travail, que ça, c'est un peu comme un sous-titre voilà, invisible, et du coup j'ai l'impression qu'en plus l'impression un peu orgueilleuse que c'est un sous-titre que je suis seule à voir, donc on est peu à avoir vu. Et je trouve ça toujours intéressant. J'ai lu d'ailleurs aussi récemment un livre de Richard Ford, dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Sur sa mère, qui est un tout petit ouvrage très court, qui n'a rien à voir avec ses autres romans. Voilà, il me semble que ça donne un autre éclairage, en fait, que c'est un autre prisme de lecture, et que ça permet d'en apprendre davantage. Et parfois, on découvre des pépites. Et pour moi, Notre cœur, c'est vraiment une pépite. C'est pas du tout un roman mineur. Je pense que pour comprendre le travail, l'évolution de Maupassant, c'est un livre très important, au contraire.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous y avez été attiré parce qu'il avait la réputation d'être une œuvre mineure, mais il s'avère à la lecture parce qu'elle ne l'est pas, justement. Ouais. Et d'ailleurs, elle ne l'était pas pour Maupassant lui-même, qu'il a publié 3 ans avant de mourir. Qu'il ne se doutait pas, le malheureux, que ce serait son dernier roman. Il en a entamé un suivant, dont vous trouverez d'ailleurs les pages survivantes en annexe de Notre cœur. Mais la maladie l'a emporté, ne lui a pas permis d'en venir à bout. Donc c'est terrible, parce que quand Maupassant publie Notre cœur, son dernier roman, quasiment son dernier texte publié, son dernier grand texte de fiction publié, Il a 40 ans, il n'a que 40 ans, et il ne sait pas, il est malade depuis des années, mais il ne se doute pas que son œuvre va s'arrêter là. Au contraire, il est en pleine floraison, c'est quelque chose de poignant. Enfin, Maupassant est mort à 43 ans, et les 3 dernières années, dans un état de ravage mental et physique, dans un état de délabrement qui l'ont conduit à tenter de se suicider sans y parvenir. On serait tenté d'ajouter, malheureusement, parce que la fin de vie de Maupassant est atroce, et il n'en transparaît absolument rien dans Notre cœur, absolument rien. C'est un roman d'une tenue, d'une élégance, d'une limpidité, d'une clarté, d'une vitalité d'écriture impeccable. Et on a le sentiment, justement, j'ai eu le sentiment, mais qu'en pensez-vous, qu'il était en train de se libérer à la fois d'un certain carcan flaubertien et d'un certain naturalisme un peu étroit, peut-être.
Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je trouve ça du coup profondément injuste, justement, que parfois on évoque ce livre en disant qu'il était malade et qu'il n'était pas tout à fait en pleine possession de ses moyens. Alors que, comme vous le dites, et ça, quand on lit le livre, il semble que ce soit plutôt le contraire. En effet, que le roman et sa langue va vers autre chose. La langue de Notre cœur est magnifique. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'allonge, qui s'étire, qui se ramifie. Oui, peut-être effectivement qui s'éloigne du naturalisme qui était le sien pour aller vers quelque chose de qui est très intérieur dans la description des personnages et par moments très poétique. Et je trouve que notamment le symbolisme de Maupassant qu'on trouve souvent dans ses romans, qui parfois peut sembler un petit peu appuyé, c'est le cas dans Belle Amie par exemple, il y a parfois des descriptions de la nature, etc., qui sont supposées refléter l'état d'esprit des personnages ou la tension sexuelle qui se passe à ce moment-là. Et quand on lit ça aujourd'hui, c'est toujours magnifiquement écrit, mais on peut trouver ça un tout petit peu appuyé. Et je n'ai pas du tout eu ce sentiment dans Notre cœur. Il me semble qu'il est arrivé au contraire au sommet de son art.
Et pour le coup, la grande description de paysage que vous avez dans Notre cœur, c'est déjà presque une étude cubiste d'une certaine façon. C'est une description complexe et à différents angles, sous différents points de vue et à différentes heures du Mont Saint-Michel. Ce sont des pages étourdissantes. On approche le Mont-Saint-Michel, on tourne autour, on monte dedans, on le voit du côté de la mer, parce que la restauratrice dit que c'est de là qu'il faut vraiment voir le mont, et c'est de là qu'il est plus étonnant. Ben, ce sont des pages tout à fait surprenantes. Et là, pour le coup, effectivement, on a le sentiment que le souci, que les ficelles d'un certain symbolisme sont loin derrière lui. Et en ce qui concerne la conduite de la phrase, on a encore la frappe très impersonnelle parfois d'un certain flaubertisme, on a la truculence d'un certain Zola, mais on a aussi effectivement parfois un allongement de la phrase qui devient lyrique et qui serait presque à deux doigts de verser dans le monologue intérieur si ça ne restait pas à la troisième personne. Et,
oui,
c'est, et cette liberté de la phrase-là qu'on trouve dans ce roman... a passé, aux yeux de certains critiques contemporains, pour des disparates de style qui lui ont reproché, alors qu'on a l'impression d'une palette qui s'ouvre.
Oui, complètement. Enfin, on sent la liberté, justement, la liberté qu'il prend, et d'une certaine manière la jouissance qu'il y a à manier cette langue comme il le fait. D'ailleurs, il y a des néologismes, il y a des moments où la phrase quitte, en effet, la forme classique. Et tout ça est très intéressant. Enfin, c'est très, très beau à lire.
On n'a pas du tout parlé de la troisième partie, de la construction générale, parce qu'on voudrait peut-être vous préserver le plaisir de découvrir la fin, qui est inattendue et qui fait intervenir notamment d'autres personnages. Le roman est impeccablement construit. Les deux premières parties sont sensiblement de taille égale. La troisième est un peu plus courte. Vous-même avez composé, en appliquant ce patron, Delphine de Vigan, « Rien ne s'oppose à la nuit ». Est un roman dont les deux premières parties sont de taille et de masse sensiblement égales et où la troisième est plus courte. C'est une coïncidence, je suis sûr que vous n'y avez pas pensé, pas pensé du tout, mais c'est simplement pour dire que... Bah, par contre, je voulais quand même dire que en commençant à lire vos propres romans, là aussi, je ne pense pas que ce soit conscient, mais on découvre chez vous aussi, comme dans notre cœur, des portraits de personnages qui se heurtent dans leur rapport au duel, qui se heurtent à la résistance, au trou noir de la résistance, à quelque chose qui résiste, qui n'arrive pas à se formuler, qui n'arrive pas à répondre à la demande, et on vient se heurter à cette demande constamment, sans jamais que... Il y a notamment dans le jour sans fin, c'est évident, le rapport au médecin, entre autres choses, mais dans Les Jolis Garçons, vos nouvelles, rien que la première nouvelle, par exemple, d'une certaine façon, Mark Stevenson pourrait être lu comme une sorte de version retournée et modernisée de notre cœur.
Oui, c'est d'ailleurs à l'occasion de la rédaction de ces nouvelles que j'avais relu le roman la première fois. J'avais ce souvenir de notre cœur et focalisation amoureuse, on dirait une fixette dans ma famille. Mmh. J'avais le souvenir d'un homme qui faisait une fixette sur une femme. Et comme ce qui m'intéressait, c'était dans ce recueil de nouvelles, c'était la manière dont on peut s'attacher à un moment donné à une image qui au fond n'est pas vraiment la personne, comment on peut tomber amoureux d'une image. J'avais relu Notre cœur avant d'entrer en écriture des Jolis Garçons.
Parce que on pourrait continuer très longtemps, mais je vois que le temps passe, il faut qu'on prépare la grande salle pour la mise en scène de Marivaux, mais on sait de reste que Maupassant n'est pas seulement romancier, c'est aussi un très très grand nouvelliste, c'est un des très grands nouvellistes que nous ayons, et j'en profite pour déclarer publiquement devant vous que je déplore à quel point l'art de la nouvelle n'est pas soutenu davantage par les revues et par les éditeurs actuellement. Vous êtes un des très très rares auteurs que j'ai eu l'occasion et le plaisir d'inviter et qui ait pu publier des nouvelles tout simplement parce que c'est un... Je ne pense pas que cet art se soit perdu, je pense que c'est une forge, un lieu de travail et d'approfondissement où beaucoup de romanciers fourbissent leurs armes. Mais autant dans les lettres américaines, par exemple, la short story, la forme courte, reste un format courant et soutenu par les éditeurs, autant en France, c'est assez difficile finalement, et il a fallu que je coure plusieurs maisons et que je recherche, que je fasse de longues recherches, avant de tomber sur un exemplaire des Jolis Garçons, comme si la nouvelle, malgré vos passants, était un genre un peu mal aimé. Est-ce que vous avez eu...
Oui, il se trouve que Les Jolis Garçons est mon livre mineur, mon livre de transition, ou celui dont on dit qu'il est moins bon que les autres.
Oui, je les aime beaucoup, moi aussi. Delphine de Vigan, je vous remercie.
Merci beaucoup.